Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Mmh. 16h50 dans le studio de Par Jupiter.
Charline, c'est la technique. Tu peux faire un essai de voix, s'il te plaît?
Ouais, bien sûr. 1, 2, 1, 2, 1, 2, mi bémol.
Ouais, encore un peu.
Ouais, 3, 4. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous l'aide.
Si tu peux la faire sans chanter.
Ouais. Ah bon, pourquoi?
Ça dénature ta voix. C'est plus difficile à gérer à la console, en fait.
Ouais. Bah, pourquoi tu ris, toi?
Parce qu'il est sympa, le réel. Hein.
T'es sûr? Parce que... Et moi, je trouve que ça permet de mesurer la beauté de mon petit grain de voix, non?
Oui.
Il est très sympa. Frédéric Fromet, qui a bien se tenir quand tu chantes.
Bah ouais, en plus on reçoit un slameur aujourd'hui. Hein. Ce soir sur France Inter, c'est l'heure du slam dans Par Jupiter.
C'est bon, Charline.
Ça nous fait changer d'air,
c'est bon,
qualité atmosphérique, vision apocalyptique.
Oui, merci Charline.
Ouais. Merci Charline, hein. On va laisser notre invité gérer le slam.
Mais attends, on reçoit le slameur de France Inter quand même.
Encore malade?
Mais non, l'autre.
Abdelmalik, l'autre.
Oui, okay, oui. Ouais. Il vient pour un roman.
Ah bah voilà, donc t'es pas obligé de chanter.
Ça dépend, parce que je peux peut-être poser les questions en slam.
Non.
Abdelmalik, je trouve que votre livre est d'une qualité atmosphérique, vision apocalyptique.
Je coupe le micro.
Ah bon.
Il y a vraiment des gens compétents dans le service public.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up radiophonique dont la devise du jour est « Il faut bien que jeune pousse se passe ». Et voici le menu de cette émission. À l'heure qu'il est, les profs sont en train de sortir de leur rentrée. Et parmi ceux qui font leur première rentrée, il y a des gens qui ont choisi de changer de carrière pour se lancer dans l'enseignement malgré le malaise dans l'éducation.
Elle vous a dit, là, ta maîtresse, pourquoi elle faisait grève?
Parce que c'est une fainéante qui veut travailler moins pour gagner plus.
La musique plébiscitée par le plus grand nombre commence à plaire à nos élites. Voilà au moins une chose qui nous rassemble. La preuve, la Philharmonie de Paris a consacré une exposition à la musique qui fait danser la planète, l'électro. Alors, j'ai pas encore chanté de l'électro, tiens, ça m'est jamais arrivé.
Non,
un petit morceau en mi, comme ça, mi.
Bémol, bémol. Qu'est-ce que c'est qu'un bémol, tête de con?
Un tour opérateur français s'est spécialisé dans des voyages réservés aux femmes. On l'a évoqué très vite hier, on va approfondir aujourd'hui. L'un des arguments de vente, c'est de protéger les voyageuses de la drague lourde. Et il vaut mieux pour certaines femmes qu'elles soient en groupe.
Je suis une femme seule, très sexy, au milieu de la campagne, au bord d'une route. Il va y avoir des accidents, je vous dis.
Alex Vizorek, qui fait partie de la troupe aujourd'hui?
Mais oui, pas des voyages féminins, mais de la troupe de Par Jupiter, la belle équipe du jour à 17h20. C'est une exclusivité. Celui qui est très demandé cette année, résultat, il a quitté Quotidien, mais il reste à bimensuel, c'est-à-dire la cadence avec nous. C'est Thomas VDB, bonjour.
Bonjour, c'est moi.
Bah oui.
Je suis là. Alors j'imagine que vous avez demandé de quoi je vais parler.
C'est exactement ce que je vais faire.
Eh bien, comme vous le savez, cette semaine, Pince-moi et Greta Thunberg étaient sur un bateau. Mais Greta Thunberg, elle a poussé Pince-moi et Pince-moi. On va parler de Greta Thunberg qui restait sur le bateau.
Très bien, 17h30, celle qui a survécu à l'été. Ce qui n'est pas le cas des invités qu'elle va continuer à interviewer cette année. C'est Christine Gonzalez.
Et c'est la rentrée pour tout le monde, oui. À la télévision aussi. Pas mal de nouveautés sur les différentes chaînes. Et Pascal Sevran fait son grand retour dans un très très bon état d'esprit. Oui.
Je suis pas un type haineux, mais j'aime pas les petits marioles, les petits gugus de la télévision. Voilà, non.
Et à 17h40, vous l'entendez rire, celle qui parvient à attraper des insolations en restant à l'intérieur, la Vierge Marie du coup de soleil, c'est Juliette Tarnot, bonjour.
Alors non, c'était sous une tente.
Ah, voilà, à l'intérieur.
Bonjour Alex.
Bonjour Juliette, de quoi on va parler?
À votre avis, on reçoit quelqu'un qui écrit un livre, à votre avis.
C'est votre boulot, ça. 17h55, on terminera l'émission pour la 6e année consécutive en chanson. Et pour cette rentrée, il n'est pas venu seul, mais avec une voix brésilienne bien connue. Ils seront les Canadaires musicaux de l'Amazonie, Frédéric Fromet et Flavia Coelho.
Et voici celui qui va ambiancer l'open space et élever un petit peu le niveau. Attention, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer.
Je suis Abdelmalik.
C'est
moi.
Charline Vanunacker. Alex Vizorek, Par Jupiter.
Bienvenue Abdelmalik.
Merci de me recevoir.
Vous faites beaucoup de choses. Vous avez sorti un album cette année qui s'appelle Le Jeune Noir à l'épée. On peut dire un livre-album.
Un livre-album, oui, tout à fait.
Alors, vous avez adapté Les Justes d'Albert Camus au théâtre. C'est pour le théâtre du Châtelet.
Ouais, ça va se jouer du 5 au 19 octobre.
Voilà. Et aujourd'hui, on a choisi de vous recevoir pour un roman de fiction, Méchante blessure, paru chez Plon, Abdelmalik. Le héros s'appelle Camille. Il est rappeur, écrivain, rappeur intello, connu en France, très connu en France. Il doit se remettre à l'écriture. Et pour ça, il s'installe à New York, où vit son cousin, qui connaît pas très bien, dans le fond. Et il croise aussi un rappeur américain célèbre dont il deviennent potes. Et quand Camille se fait plaquer par sa femme, il part en voiture avec son cousin, son pote rappeur, direction Washington. Il est assassiné sur le parking d'une boîte de striptease. Trois petits points. J'en dis pas plus, voilà pour l'intrigue. Et au milieu de cette intrigue, dans les monologues du héros, les discussions avec ses amis, notamment sur la route entre New York et Washington, et ensuite, se dégage une vision de la France et de la société française. Alors d'abord, Camille, c'est pas vous puisqu'il s'appelle Camille?
Et qui est plus vivant.
Ouais, non, mais disons que c'est le fameux Madame Bovary, c'est moi, de Flaubert. L'idée, c'est que Camille, c'est l'anagramme de Malik. Je m'appelle Malik, il s'appelle Camille, l'anagramme. Et puis, il y a cette idée aussi. Moi, il y a quelques années, en fait, quand j'avais été très marqué par le 3 jours chez ma mère de Weyerganz.
Oui.
Et en fait, c'était François Weyergraaf. Et je m'étais dit, mais ça serait marrant de raconter l'histoire d'un type qui me ressemble un peu, qui c'est moi, c'est pas vraiment moi. Et puis de raconter ce que j'ai envie. Et finalement, en utilisant comme ça une figure, comme ça, quelqu'un qui soit moi, mais pas vraiment moi. Donc voilà, donc c'est parti de là au départ. Mais la réalité, c'est qu'aussi, j'ai ce truc où je pense véritablement profondément que la littérature peut changer le monde. Je crois ça. Et je crois dans la puissance des mots, du verbe, dans la possibilité de travailler les imaginaires des êtres et que on puisse avancer tous positivement ensemble, sans être dans un truc cucu les petits oiseaux, mais dans cette idée de comment finalement on peut faire peuple tous ensemble. Et je crois de moins en moins aux politiques, les intellectuels, je sais plus si ça existe vraiment, mais par contre je crois aux artistes. Et je crois en tous les artistes dans leur diversité, parce que pour moi c'est les seuls encore qui ont, enfin de mon point de vue, qui ont le courage de continuer à être des êtres humains, finalement d'avoir peur, d'être
les artistes
de rire.
Reprennent finalement le rôle peut-être des intellectuels, alors c'est ça?
Ouais.
Plus crédible finalement que certains de nos intellectuels.
Non, c'était ma sous-question, c'est de dire malgré ce que vous avez écrit, malgré le contenu du livre, vous ne vous classez pas comme intellectuel?
Ben c'est quoi un intellectuel? Un intellectuel, c'est
qui réfléchit le monde, est-ce que vous avez fait, non?
Ouais, quelqu'un qui réfléchit le monde, mais qui va plus loin, quelqu'un qui a un projet d'influence, qui veut influencer, il réfléchit le monde, mais par sa réflexion, faire bouger le monde, que le monde puisse aller dans une certaine direction, mais direction qu'il considère comme positive.
C'est rigolo parce que vous adaptez Camus et en fait vous adoptez le principe de son ennemi, Sartre, qui avait défini l'intellectuel en disant, enfin. Une des définitions hyper simples qui est l'intellectuel, c'est le mec qui se mêle de ce qui ne le regarde pas.
Disons que moi, le terme intellectuel, pour moi, il est un peu vague en réalité. Mais pour moi, l'artiste, ça signifie vraiment quelque chose. Et artiste, pour moi, inclut le fait d'être un intellectuel d'une certaine manière. Et donc, du coup, pour moi, c'est je crois aux artistes, je crois en ces gens qui sont capables de pleurer, d'être paradoxal, d'être dans la vie réellement, d'être dans l'empathie réellement. Et puis, la réalité, c'est que j'ai aussi eu envie véritablement d'écrire un livre spirituel aussi, de parler véritablement de spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Et donc voilà, tout ça en même temps.
Donc Camille est un peu le porte-voix de votre vision aussi de la société, c'est ça qu'on peut comprendre. Le roman parle de la France, mais votre personnage, il parle depuis New York, où il s'est installé pour écrire, et puis il parle d'outre-tombe. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un océan et le trépas pour que votre personnage nous parle de la France d'aujourd'hui?
J'ai envie de dire, enfin, pour des raisons qui, de mon point de vue, sont assez évidentes. D'abord, le rapport à la finitude, quand on a conscience réellement, j'ai envie de dire, dans sa chair, dans son, qui a une fin, eh ben, forcément, on agit différemment. Forcément, on voit le monde différemment. Forcément, son rapport aux êtres, aux choses, c'est différent. Cette notion de finitude, pour moi, elle est hyper importante. Donc, la notion d'outre-tombe, fatalement, ça joue par rapport à ça. Et le fait de l'éloignement, souvent, c'est en s'éloignant qu'on voit plus clair, d'une certaine manière. Et c'est vrai que le fait comme ça, d'aller à New York, d'aller ailleurs, mais pas vraiment ailleurs, parce qu'on est tous un peu américains, on le sait tous maintenant. Et le fait comme ça d'aller ailleurs et de mettre son pays en perspective, de mettre les valeurs de son pays en perspective, de mettre l'Europe en perspective, finalement le monde en perspective, et se dire, moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire bouger les choses? Voilà.
Juliette?
Alors il s'est passé quelque chose entre le moment où vous écrivez votre livre Méchante blessure et le moment où il sort, c'est que Toni Morrison est morte.
Ouais.
Et... Page 37, vous écrivez, vous parlez de Camille est en train d'écouter une chanson de Mick Mill dans ses oreilles à l'intérieur de lui, et il dit et aucun livre de Toni Morrison n'aurait pu me convaincre aussi puissamment de la légitimité de l'âme noire que cette chanson de Mick Mill. Alors évidemment vous pouvez pas prévoir qu'elle allait mourir cet été, et je m'interrogeais là-dessus. Vous pensez que le rap c'est plus costaud que qu'un livre?
Ben en fait, ça le devient, ça l'est devenu, parce que c'est une question de culture, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture du livre capable de nous bouleverser, de nous émouvoir, mais tous collectivement, c'est quelque chose qui diminue de plus en plus, parce que et c'est pas moi qui pose cette réflexion, cette question. Des gens, quelqu'un comme Jonathan Franzen a posé cette question en disant, est-ce que à l'ère du rap, à l'heure des séries, à l'ère de tout, est-ce que comment le roman reste pertinent? Comment les mots dans avec l'outil du roman, on continue à pouvoir dire véritablement des choses? Et j'ai l'impression, en tout cas concernant les gens de ma génération et les plus jeunes aujourd'hui aussi, c'est que le rap a un impact qui est réel. Mais l'impact du rap, de mon point de vue, c'est un impact littéraire. On pourrait en parler encore,
On va d'ailleurs y revenir, puisqu'on va aborder un sujet tout à l'heure dans l'émission sur nos élites qui commencent à goûter le rap, et on verra pour quelles raisons tout à l'heure. Abdelmalik est avec nous jusqu'à 18h, son roman s'intitule Méchante blessure, il est paru chez Plon. The Black Keys, go! Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, Abdelmalik est parmi nous. Il publie Méchante blessure chez Plon, c'est un roman de fiction. Il est avec nous voilà, jusqu'à 18h avec une troupe, une équipe.
Une famille, je dirais une famille. Car je vois Thomas VDB, je vois Christine Gonzalez et je vois Juliette Arnaud qui parlera du livre.
Dis donc, allez, la réunion de famille, c'est bien sûr le journal.
Je voulais simplement dire deux mots aux Brésiliens et aux Brésiliennes. C'est Muito obrigada.
Le journal de presque 17h17.
Très bien ça. Brigitte, tu veux une petite anisette?
On commence par les titres.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a annoncé que la taxe d'habitation sera supprimée en 2022.
Bah 2022, c'est l'année de la présidentielle. Pour assurer la réélection de Macron, il était à deux doigts de promettre à chaque Français 100 balles et un mars en plus.
Six anciens proches de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant et Patrick Buisson, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Élysée.
Franchement, Nicolas Sarkozy, je le plains. Ça doit être hyper dur d'être entouré d'autant de délinquants tout en restant l'homme droit et intègre qu'on connaît.
Des brèves.
Et oui, malheureusement, je suis entouré de brèves, Charline, donc je suis obligé de les faire.
On est cerné, ça, je le savais.
Commençons donc par ce séisme dont tout le monde parle
concernant
la classe politique française. Ouais,
concernant la présidence des Républicains, je soutiendrai Christian Jacob, a déclaré Jean-François Copé.
Ça rabat complètement les cartes. Je voudrais évidemment pas mouiller, moi, tant que je ne connais pas la position de Jean-Frédéric Poisson.
Et de François Asselineau.
Vous avez raison, François Asselineau. Ça va être serré, serré, quelle belle campagne. C'est passionnant.
Restons à droite.
Oui, aux universités d'été du MEDEF, ils avaient invité Laurent Gérard.
Alors, je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante.
Mais tiens. Hein? Mais attendez, c'est
tellement original.
Mais c'est Nicolas Sarkozy, ça.
Dans sa pensée.
C'est Laurent Gérard?
Bah non, je vous promets, j'ai vu les images, moi.
Enfin, Charline, un président de la République, il se moquerait d'une enfant malade?
Non,
mais laissez-moi croire que c'est Laurent Gérard.
Ouais, d'accord, allez, c'était Laurent Gérard au MEDEF.
Voilà.
Laurent
Gérard
au MEDEF. Allez, musique.
Voilà, musique, c'est à vous.
Voilà. 20 ans après, Manuel Chao réédite l'album Clandestino et sort 3 inédits.
Ah, j'apprends que le service comptable de France Inter, une grosse note de frais de nouveaux slips vient de rentrer pour les programmateurs de la playlist. Après qu'ils aient tout mouillé le leur.
De son côté, Alain Souchon dévoile 2 titres de son nouvel album, Am 50s, qui sortira en octobre.
Le service comptable informe que la note de frais pour les slips vient d'être annulée. La programmation de la playlist, il n'y a plus besoin de slips, ils font tous l'hélicoptère avec leur...
Merci, très bien, allez.
Télévision.
Frédéric Becbédé annule sa participation à On n'est pas couché après avoir découvert que c'était une participation bénévole.
Et oui, voilà. Il aime bien pas travailler, mais il faut être payé pour. Et apparemment, le nouveau concept de l'émission, c'est On n'est pas couché, on n'a pas couché les conditions de rémunération sur le contrat.
Science à présent. Oui. Selon une nouvelle étude, manger gras durant la grossesse protégerait les bébés de la maladie d'Alzheimer.
Quel dommage que les hommes ne puissent pas porter la vie. Les enfants de Gérard Larcher auraient eu une excellente mémoire.
Et des brèves?
Mieux que ça, Charline.
Oh là là, vous m'inquiétez, là.
Eh oui, alors qu'il recevait le prix récompensant sa carrière au tirage au sort de la Champions League, Eric Cantona s'est fendu d'un discours pour le moins cryptique.
Ah, en anglais.
En anglais, mais je vais vous le traduire mot pour mot.
As flies to
ce que les mouches sont pour des enfants espiègles, nous le sommes pour les dieux. Ils nous tuent pour leur plaisir. Bientôt, la science ne sera pas seulement capable de ralentir le vieillissement des cellules, elle va aussi les réparer et ainsi nous rendre éternels.
C'est Jean-Claude Van Damme, ça.
Seuls les accidents, les crimes, les guerres vont nous tuer, mais malheureusement, les crimes et les guerres vont se multiplier. J'aime le football. Je vous remercie. Les Français.
J'avais pas vu, je vous ai
dit. Vous moquez de Jean-Claude Van Damme, mais au moins, il va falloir se dire que votre Jean-Claude Van Damme joue au foot.
Merci.
On adore Eric Cantona, bien
Alex
évidemment.
Alex Bizarrek, il est 17h25. À Strasbourg, par exemple, n'est-ce pas, Abdelmalik, en notre compagnie. Je rappelle que vous aussi, il y a votre album qui est sorti cette année, Le Jeune Noir à l'épée, livre-album. Il y aura l'adaptation de Les Justes d'Albert Camus au théâtre du Châtelet au mois d'octobre, Abdelmalik, avec une belle distribution. Et que vous sortez, dites donc que l'actualité, mais comment vous faites pour faire tout ça? On vous le demande certainement souvent.
Oui. La passion, exactement. La passion.
Méchante blessure parue chez Plomb, Abdelmalik. Avec nous, on va aborder ce premier sujet. En attendant la chronique de Thomas VDB, les profs ont repris du service aujourd'hui. Pour certains, cette journée marque le début d'une deuxième vie. Car oui, il existe des gens assez généreux pour se reconvertir dans l'enseignement, malgré le malaise dans l'éducation, le salaire peu encourageant et le manque de valorisation du métier. Autant dire que Becbédé, il serait pas allé. Alors, quelles sont les motivations profondes de ceux qui choisissent de devenir prof sur le tard?
Qu'est-ce que je pourrais faire, Charles? T'as pas une idée?
Mais tu vas trouver.
J'ai rien faire. Ah, mais je sais ce que je pourrais faire.
Quoi?
J'ai mon bac, j'ai fait une année de droit. Je peux faire un STIT.
Oui,
Mais bah, je peux faire un site, je fais une demande.
C'est bien.
Hein? J'aime bien les enfants. Je vais faire une demande, on verra bien si j'ai une réponse. Un site, ils en cherchent. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
C'est bien.
Super. Un site, on va faire un site, je vais faire
un site. Un extrait du maître d'école, bien sûr, de Claude Berry. Tout quitter pour devenir prof, c'est la une et le dossier de Libération aujourd'hui, puisqu'ils font leur rentrée avant celle des élèves lundi. Ceux qui ont plaqué leur ancien boulot pour devenir prof donnent pour argument la quête de sens dans le travail. Abdelmalik, le sens a plus de valeur que l'argent pour ces gens-là. Ça s'inclut dans un mouvement de société qui s'initie, vous pensez? Vous comprenez cette démarche?
Ouais, mais ça serait bien de les payer plus aussi. Ça serait bien. Non, mais ce que je veux dire, ça n'enlève pas le fait que je pense que tout commence à l'école. Et d'une certaine manière, comme tout commence à l'école, il s'agirait que les enseignants soient payés davantage et puis que ça donne envie et puis voilà. En fait, le truc.
Maintenant, les gens vont se dire, les policiers vont se dire, ah, ils sont en quête de sens, donc ils viennent quand même. On n'a pas besoin de les payer plus.
Ouais, c'est ça. Mais justement, on demande la quête de sens, mais la quête de sens, on l'est partout, qu'on soit enseignant ou pas enseignant. C'est pas tout d'un coup, on peut travailler à la poste et être en quête de sens. Ça, l'un n'enlève pas l'autre. Ouais. L'idée, c'est de dire que quel est notre projet sociétal, qu'est-ce qui est important dans notre projet sociétal. Et si on matin, midi et soir, on nous répète l'éducation c'est important, le savoir c'est important, et ce qui est vrai, le savoir et l'éducation c'est important, c'est fondamental, eh ben il faut payer. Mmh. Il faut payer, il faut que ces gens-là aient le sentiment de se dire voilà, je deviens prof et j'ai les moyens qui vont avec, etc.
Ils méritent mieux, c'est ça.
Ouais, ils méritent mieux. Mmh. Et puis voilà, j'en parle comme ça un peu de cette manière parce que pour moi, je l'ai toujours dit et je le redirai jamais assez, les enseignants sont mes héros et sans les enseignants, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler.
Ils ont changé, voilà, dans la quête de sens pour les enseignants, un prof peut changer une vie, vous en êtes la preuve.
Ouais, mais un prof change une vie, tous. Je veux dire, après, il y a des histoires qui s'écrivent, j'ai envie de dire comme ça, avec des marqueurs ou des gros, parce qu'on vient d'un milieu socio-culturel compliqué, etc. Mais vous, vous aussi, l'enseignement a changé votre vie. Vous aussi, le fait d'avoir...
Ah ben moi, mes parents sont profs, donc
ah ben voilà, ouais, ça a changé doublement votre vie. Voilà. Et donc voilà, c'est important. Et je pense que dans une société, on en parle, une société finalement où on valorise le fait d'avoir, on valorise la matière, et ben payons les enseignants plus. Voilà.
Vous êtes dans la transmission quand on vous lit, quand on vous entend. Est-ce que c'est un métier qui aurait pu vous plaire, enseignant?
Ouais. Ouais, j'ai énormément d'admiration pour les enseignants. Ouais, c'est un métier qui aurait pu me plaire, ouais, véritablement.
Ouais, on aurait aimé avoir Abdelmalik comme prof. Ouais. Plein de gens, bien sûr.
On va tous apprendre quelque chose. Apparemment, la tirade de Cantona, c'était du roi Lire. Sur la tirade des mouches.
Et on s'est moqué. On s'est moqué du roi Lire.
Non, on sait pas pourquoi il l'a fait à la Champions League, mais comme ça, on a tous appris quelque chose.
Très bien.
C'est pas le moment où il dit j'aime le football.
Non, ça, Shakespeare aimait bien, mais.
Non, la première fois que Shakespeare fait des brèves, quand même. Non, par Jupiter, c'est assez.
Les gens sont vigilants sur Twitter, on avance.
Abdelmalik, dans ce studio, il y a celui qui fait également sa rentrée avec nous. On est tellement heureux que vous soyez là. Une saison de plus encore, Thomas VDB.
Eh oui.
Thunberg. Thunberg. Sur son bateau. Ça y est, elle est arrivée à New York. Thunberg.
Voilà.
C'est joli.
Elle est arrivée, bah oui, ça s'est travaillé, s'est peaufiné évidemment avec un prof de chant. Félicitations à Greta Thunberg qui a remporté la route du Rhum cette semaine. C'est génial, je crois qu'elle courait pour Fleury Michon et elle a remarquablement mené sa course. Elle a vraiment su profiter d'un vent favorable qui a permis de coiffer au poteau littéralement Loïc Perron et tous les autres. Alors c'est vrai, elle est arrivée hier, il y a deux jours à New York, Greta Thunberg, et c'est vrai que c'est bizarre parce que quand elle est arrivée, elle a fait un tweet, un peu bizarre, comme je dis. Elle a tweeté comme ça. Merci à tous ceux qui sont venus m'accueillir à New York. Maintenant, je vais me reposer quelques jours et vendredi, je participerai à la grève devant les Nations Unies. J'ai dit, la meuf, elle vient de faire deux semaines de bateau. Elle se repose parce que vendredi, elle doit faire la grève. Enfin, je pense que s'il y a moyen de bien branler le mammouth, je crois qu'elle est là quand même. Hein, c'est vrai. Alors, c'est vrai que je me moque. Je me moque, mais en vrai, je partage complètement ses idées à Greta Thunberg, parce que c'est vrai que moi, politiquement, bah, comme vous le savez, je suis gauchiasse. Et c'est vrai que bah, c'est vrai que la meuf, c'est hallucinant, elle a la moitié de mon âge, mais elle a plus du double de mes convictions. Donc quand même, le chapeau. Et, mais c'est vrai qu'on est d'accord, c'est vrai que quand elle parle quand même, Greta Thunberg, c'est vrai qu'elle a un petit côté anxiogène. Hein, si vous regardez Shining avec Jack Nicholson, c'est qu'il y a une scène, à un moment où le petit garçon il fait du tricycle dans les longs couloirs, et à un moment il se retrouve juste en face de deux petites filles dans le couloir. Ouais, ouais, ouais. Elle fait un peu penser aux deux petites filles qu'il y a dans Shining, c'est vrai quand même. Hein. C'est vrai que là, elle vient de passer deux semaines sur un bateau. Hier, j'avais une pensée pour tous les petits mousses qui étaient avec elle sur le bateau pendant deux semaines. Je sais pas comment c'est de rester deux semaines sur un bateau en un univers clos comme ça avec Greta Thunberg. Elle peut te jeter par-dessus bord à n'importe quel moment. La meuf, elle dit, ah, c'est toi qui as pris plus d'une feuille de papier toilette. Voilà, c'est d'être capitaine Greta. Capitaine Greta sur le bateau, ça doit pas être rigolo quand même. En tout cas, il y a une chose, c'est vrai qu'on peut dire quand même au sujet de Greta Thunberg, c'est qu'elle est quand même bien clivante. Ça, elle est clivante, ça, elle clive, hein. Ça, le matin, elle se lève, hop, elle va cliver vite fait. Ça, on aime ou on déteste, mais pour cliver, elle se donne. À 16 ans seulement, comme quoi il n'y a vraiment pas d'âge pour cliver. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, ça c'est vrai, il y a plein de gens. En général, j'ai remarqué, plus on aime les énergies fossiles et les hydrocarbures, moins on aime Greta Thunberg quand même. Par exemple, quelqu'un comme Pascal Pro, bah, lui, il n'est pas fanat de Greta Thunberg. Il paraît que dans son bureau, il joue aux fléchettes et il a mis une photo de Greta Thunberg sur la cible. Hein. Donc il fait bam dans le front de Greta. Bon. Voilà, il y a des gens qui ne l'aiment tellement pas qu'hier, il y a carrément des gens qui ont lancé le hashtag RIP Greta Thunberg pour faire croire qu'elle était morte. Ah, c'est et c'est vrai que faire croire que quelqu'un est mort, c'est toujours une bonne blague quand même. Que je peux dire, hey, ta grand-mère, elle est morte! Je déconne! Voilà, c'est quand même forcément des torrents de rigolade à chaque fois. Alors c'est vrai que bon, Greta Thunberg, elle est pas facile, mais voilà, elle a un côté désagréable mais nécessaire. Elle est un peu comme un examen de la prostate. Voilà, c'est désagréable mais nécessaire. Il faut passer par là. D'ailleurs, j'ai vu que parmi les gens qui ne l'aiment vraiment pas, on en parlait tout à l'heure, il y a Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'on l'a entendu tout à l'heure. C'est vrai que hier, il était au MEDEF en train de roder son nouveau stand-up. Parce que vous savez que nous, les comiques, quand on teste des nouvelles blagues, on aime bien aller dans des endroits où on est à l'aise, où on sait que le public est conquis d'avance. Voilà, forcément, ça marche un peu mieux. Alors, il a dézingué Greta Thunberg. Il a dit qu'il l'a trouvée si sympathique, si souriante et tellement originale dans sa pensée. Alors, évidemment, c'est une grosse vanne ironique. Il a fait un tabac. La salle était en liesse. Il a fait deux rappels, je crois. Alors, personnellement, je dis quand même, moi, j'ai plus confiance en une fille de 16 ans qu'en Nicolas Sarkozy, hein, quand même. Généralement, même, j'ai plus confiance en quelqu'un, quel que soit son âge, qu'en Nicolas Sarkozy. Ça, c'est vrai. Parce que Greta Thunberg, tu regardes, elle est quand même moins souvent convoquée chez les juges d'instruction que Sarko. Quand tu regardes bien, en comparaison. Lui, à 16 ans, il pouvait pas sauver le monde parce qu'il était déjà trop occupé à chercher un moyen de le conquérir. Donc, forcément, c'était pas évident pour lui. Parce que voilà, les ennemis de Greta Thunberg, ils aiment bien tous l'attaquer sur son âge. En fait, je crois que c'est ça qui énerve les gens, c'est le fait qu'elle a 16 ans. Et les gens, ils ne supportent pas ça. Les gens, ils sont là, mais tu nous parles comme ça, tu nous parles pas comme ça à ton âge. Reviens dans 10 ans, et là peut-être qu'on voudra bien parler avec toi de tes problèmes d'extrême urgence climatique. Parce qu'en fait, on savait pas, mais c'est vrai que l'extrême urgence, ça peut attendre un petit peu quand même. Mais la meuf, en plus, elle ne fait que redire ce que disent tous les scientifiques. Mais la meuf, elle, si elle pouvait, moi je me dis, elle pourrait avoir un an et demi si elle arrivait avec son doudou et qu'elle m'explique que la surconsommation, ça fait fondre la banquise en s'appuyant sur des études scientifiques. Mais je la croirais quand même si elle était avec un numéro de Science et Vie bébé, et en train de montrer les chiffres précis, moi je la croirais. C'est fou parce qu'elle nous parle de la fin du monde et du changement climatique et il y a des gens qui se plaignent parce qu'elle est instrumentalisée. Ils sont là, ouais, elle est instrumentalisée par les écolos. Bah ouais, mais je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit instrumentalisée? Si ce qu'elle dit est vrai, on s'en fout de l'instrument. Si c'est un piano, une trompette ou une adolescente, je pense que c'est vraiment kiff-kiff. Moi, quand je vois Greta Thunberg, en fait, je suis partagé entre trois émotions. Il y a l'espoir, il y a de la peur, mais il y a de la peine aussi. Parce qu'évidemment, ça fait de la peine, la fille quand même, elle sacrifie sa jeunesse pour se taper des réunions à l'ONU, bien lourdingues, des trucs de parlement, des séances au parlement. Je lui dis, c'est pas une vie, jamais une partie de Flipper, jamais un concert de Rihanna, jamais une sortie en boîte, tout ça pour qu'au final, elle se fasse rabaisser par Sarkozy qui se fout de sa gueule. Je trouve ça un petit peu triste. Donc je pense que arrêtons de polluer, si c'est pas pour sauver la planète, faisons-le au moins pour sauver la jeunesse de Greta Thunberg.
Merci Thomas VDB, quel retour flamboyant. Flamboyante aussi s'annonce la fin de cette émission car Frédéric Fromet chantera en duo avec Flavia Coelho et Flavia nous fait deux cadeaux parce qu'elle nous offre aussi l'exclusivité de son nouveau single qui sort aujourd'hui. Flavia Coelho nous présente DNA, son nouveau single
chic
qui donne le titre à l'album.
De noite e de dia você sempre se pergunta. Quero uma resposta correta, bem mais profunda. A definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor. Riqueza exuberante que vem do interior. O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar.
aceita, enfim, o que foi herdado. A conexão com cada semelhante. Até os que moram muito, muito mais distantes. Valorize cada cromossomo que é dor. Até seu defeito de caráter extravagante. Personalidade é sua, não é de ninguém. Quando você nasceu, o universo disse: a vida dura, dura pouco, só depende de você. Isso é lógico. O seu talento é genético, vale pra entender. É biológico.
Le nouveau single, c'est la première fois que vous l'entendez. Elle nous a offert ce cadeau, Flavia Coelho. C'est aussi le nom de son dernier album. Et puis, elle sera à la fin de cette émission pour une surprise avec Frédéric Fromet. Restez avec nous tout à l'heure, Flavia. Donc, c'est Abdelmalik qui est en notre compagnie. Lui aussi, il a un album qui est sorti cette année qui s'appelle Le Jeune Noir à l'épée et un livre pour lequel il est venu nous rendre visite qui s'intitule Méchante blessure, paru chez Plon. C'est son roman. Elle est venue de Suisse, Abdelmalik. Elle s'appelle Christine Gonzalez.
Alors, j'ai lu récemment un article assez critique dans Libération qui parle de la rentrée télé et estime que les chaînes françaises proposent des programmes usés jusqu'à la corde. Avec toujours les mêmes animateurs, Arthur, Ruquier, Aléagas, Drucker, etc.
Pas de mal de Michel, s'il vous plaît.
Non, je l'adore, Michel, hein, mais, et le journaliste aussi, mais il écrit quand même cette phrase implacable, je vous la lis, c'est sûr, côté français, on aura bientôt des morts. Et c'est vrai, c'est
pas
vrai
pas
que...
comme ça de Michel. Hein.
J'ai été très surprise, par exemple, de voir que Jean-Luc Delarue faisait sa rentrée. Hein Le retour de Ça se discute le mercredi soir sur France 2 avec des thèmes aussi divers que l'amour est-il plus fort que l'interdit, j'ai 9 ans et je suis dépressif, ou encore j'avais du mal à canaliser ma violence alors j'ai écrit quelques articles négationnistes. Jean-Luc Delarue, quel plaisir de vous rencontrer.
Non mais là j'étais à la conférence de presse de France Télévisions, alors c'est vrai que je vois bien dans les yeux des gens quoi. Ceux qui sont contents de me voir, ceux qui se disent il est encore là lui, ceux qui se disent mais c'est un revenant, ceux qui se disent... Je suis content de le voir. Et voilà.
Ouais, et vous pensez pouvoir rehausser les audiences du mercredi soir ?
Don't be afraid to fail, be afraid not to try. C'est une phrase de Michael Jordan, ça veut dire n'ayez pas peur d'échouer, ayez plutôt peur de ne pas essayer.
Merci Jean-Luc. Un petit tour maintenant sur la grille des programmes de TF1, le matin, télé-shopping bien sûr. Alors bon, Marie-Ange Nardi manquait un peu d'expérience selon la chaîne. Elle a été remplacée par une valeur sûre du PAF. Parfois, la télé est cruelle.
Oui, parfois, oui, c'est vrai.
Pierre Bellemare, c'est le grand retour. Hein.
Hein, c'est le rêve.
Oui, ouais, c'est le rêve. C'est très audacieux, mine de rien.
C'est extraordinaire.
Oui, mais vous ne trouvez pas ça quand même un petit peu glauque de mettre des morts à l'antenne
Non, attendez, vous avez aussi le contraire.
Ah, il y a aussi des vivants.
Voilà, il y a encore une télévision très gaie, ah. Grâce à Patrick Sébastien.
Ah non, mais attendez, Patrick Sébastien, il a été viré. Hein,
c'est... Incroyable, ouais, dramatique ouais. Complètement.
Ouais. Bon, alors, Pierre, je vous laisse, j'ai le reste de la grille télé à présenter. En tout cas, merci, bonne rentrée avec Téléshopping.
Merci à vous.
Un petit tour sur Canal+, désormais. Alors c'est vrai que Canal+, n'a pas changé grand-chose. C'est une chaîne qui était assez avant-gardiste, vous le savez, dans la mesure où c'était une chaîne déjà morte avant les autres.
Bonjour.
Philippe Gildas, bonjour. Alors vous reprenez du service.
Oui, c'est absolument magique. Hein.
Vous allez bien ?
J'ai dit la mort, quelle connerie. Parce que plus j'y pense, plus ça m'énerve,
ouais,
vraiment.
Ouais, mais en même temps, la mort, c'est quand même l'avenir. Vous pensez pouvoir sortir Canal+ de sa chute ?
T'inquiète pas ma poule, je m'occupe de tout.
Bon, alors courage Philippe. Dernier changement notoire hein, en ce qui concerne la rentrée télévisuelle en France, ça se passe sur Énergie 12, où l'on trouvait des programmes musicaux un peu trop usés. Alors ils ont décidé de mener une petite révolution.
La chance, son chanson.
Je tremble. Les poils.
Sa raison d'aimer ses musiques, ses poèmes.
Pascal Sevran, content de retrouver votre émission. Le public va suivre, vous pensez ?
Ils connaissent ma fidélité, ils connaissent mon naturel et on rit beaucoup.
Oui, on rit beaucoup. Est-ce que vous avez peur de voir débarquer sur votre nouvelle chaîne des petits jeunes qui voudraient votre place ?
Pas du tout.
Pas peur de la concurrence ?
Pas du tout. Ardisson peut venir ici, d'ailleurs il viendra, il n'y a pas de problème.
Bon, alors, dites-nous quelles sont les nouveautés de votre émission.
Non.
Non, il n'y a rien à dire.
Je ne parle pas. Bon. C'est tout, ça ne me vient pas à l'esprit.
Bon, alors je signale tout de même que vous sortez également un album. Énergie 12 en fait d'ailleurs la promo, on se quitte avec ça.
Le nouvel album de Pascal Sevran, Chantez la vie.
Il faut chanter la vie.
Chantez la vie, l'album de charme de Pascal Sevran en CD et cassette.
Wow, Christine Gonzalez, merci, bravo pour à chaque fois ces prouesses radiophoniques où grâce à Lina, on peut encore les interviewer aujourd'hui. Et finalement, ils parlent d'outre-tombe, de la société d'aujourd'hui exactement comme votre personnage.
C'est la distance juste, il me semble, pour parler de la société.
Exactement. C'est ça. Comme Camille dans Méchantes blessures, le roman d'Abdel Malik dont Juliette va évoquer tout à l'heure, juste après avoir traité cet autre sujet. Aujourd'hui, la musique qui remporte des succès commerciaux est rapidement adoptée par nos élites. Nos institutions et nos politiques goûtent à présent le rap et l'électro, comme le plus grand nombre en France, ce qui légitimise donc ces musiques. Et quand on se sent soudainement légitime, c'est ça qui met très à l'aise par la suite.
Les rappeurs grolandais chantent pour les enfants. Retrouvez Grompal avec Il court, il court, le furet.
Il court, il court, le furet.
Retrouvez aussi Gramso dans Les Roses Blanches.
C'est aujourd'hui dimanche. Écoute-moi bien la daronne. Tiens ma jolie maman, t'es bonne. Je te pèse avec mes yux. Voici des roses blanches. Je garde les feuilles, je les roulerai, ok. Que ton cœur aime tant.
Les rappeurs chantent pour les enfants avec Nekfion.
Une souris verte qui fumait de l'herbe. Je l'attrape avec ma queue, je la démonte jusqu'à l'essieu.
Les rappeurs chantent pour les enfants, l'événement rap. Achetez-le vite.
C'est Groland, bien sûr. Ça vous a fait beaucoup rire, Abdel Malik.
Vous avez reconnu les collègues?
Alors, on a beaucoup ri avec ça, c'est Groland, et ça part d'un article du Monde Diplomatique qui s'appelle « La bande-son de l'ère du temps » et qui nous explique qu'aujourd'hui, en matière de musique, finalement, le plus grand nombre et l'élite pour une fois se rejoignent un peu, parce que l'élite commence à goûter à l'électro qui entre dans les institutions. On se rappelle de Emmanuel Macron qui avait fait venir Kiddy Smile à l'Élysée, par exemple, ou l'électro à la Philharmonie. Alors, le journal se pose la question, se dit finalement, est-ce que c'est suspect ou pas? Le rap, par exemple, c'est la musique de la contestation comme l'a été le rock. On peut pas dire que c'était la cam de Pompidou, le rock. quel est votre avis sur cette question? Est-ce que c'est une manière de se rapprocher du peuple, de contenir la contestation musicale, de montrer qu'on est branché?
Tout ça en même temps, mais je pense que du point de vue finalement du rappeur, de l'artiste, du rocker, de ce qu'on veut, l'essentiel finalement, on a un langage, un outil avec lequel l'essentiel c'est d'être soi. Quand vous dites le rap c'est la musique de la contestation, non, c'est une musique tout court. Il y a certaines personnes qui contestent, d'autres non, etc., etc. Je pense que c'est important de toujours tout faire pour casser les ghettos. Toujours tout faire pour sortir des cases. Après, il y a le jeu de la politique politicienne. On veut draguer un électorat potentiel, etc., etc. On connaît l'histoire.
Ils y voient des représentants des minorités, peut-être, nos politiques, des porte-paroles de la population.
Ouais, ça. Mais ils y voient aussi, tout simplement, il y a le nombre. Encore une fois, on vit dans un monde où finalement, ce qui est le plus important, c'est la quantité, c'est le règne de la quantité. La réalité, c'est que on sait très bien que c'est pas le nombre qui fait la vérité. La vérité, elle est dans la vérité. Finalement, moi, je suis, et c'est ce dont je parle aussi dans mon roman, c'est privilégier la qualité. Dire finalement qu'importe si on est suivi par 1 million ou pas, l'essentiel c'est d'être honnête, sincère et de vouloir rassembler, fédérer, d'être positif.
Oui. Donc voilà. même en musique, ils se fient à l'audience.
Ouais, mais j'ai envie de dire même en musique, par exemple, en musique ou autre, il y a certaines personnes qui sont des artistes véritablement, mais il y en a d'autres qu'on dit artistes, mais en fait c'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen, c'est tout ce qu'on veut sauf des artistes. Donc il faut juste être précis. Et on vit dans un monde comme ça où y a pas vraiment de précision par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça revient au même. C'est toujours comment on va capter le maximum d'électorat potentiel pour un poste futur.
Il y a un peu d'hypocrisie dans ce goût soudain de nos élites. Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas pour vous un effet pervers? Parce que je me souvenais de ça, mais Marion Maréchal, à l'époque, elle avait dit qu'elle aimait bien Youssoupha. Pour Youssoupha, je sais pas si ça lui fait très plaisir d'entendre ça.
Moi, je sais pas.
Mais vous aimeriez que Jean-François Copé dise, ah ben moi, mon...
Mais non, moi, il faut savoir que faire de la musique, écrire des livres, enfin, être artiste, c'est pour parler à l'être humain en général.
Bien sûr.
Et jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là sont des êtres humains aussi.
Donc ça peut vous faire plaisir. Enfin,
non,
vous
non, c'est
voyez
pas question, c'est pas question de faire plaisir ou pas. C'est que l'idée, c'est de parler à tous. Mm-hmm. Et si, par une musique, par un livre, on peut changer la vie de quelqu'un, c'est une chose. Mais si cette personne nous instrumentalise, c'est autre chose.
Bien sûr.
Donc encore une fois, c'est, l'essentiel est dans l'intention. C'est toujours la même chose.
Imagine-t-on François de Rugy écouter PNL. Je vous laisse sur cette image pour aborder l'ouvrage d'Abdelmalik. Juliette Arnaud.
Il y a deux moments dans la vie où on se pose la question de l'héritage intellectuel. Quand un enfant de soi se prépare à venir au monde et quand on se prépare soi-même à mourir. Et c'est un carton plein pour Camille, le narrateur héros de votre livre, Abdelmalik, méchante blessure. L'enfant, donc la naissance et la mort. Et non, Alex, je spoil que dalle, ne vous étranglez pas, le studio est tout neuf, ça va faire moche. Camille n'est peut-être pas mort pour de vrai. C'est juste que lorsque son agent, un peu Cassandre sans le savoir, note son trouble quant à cette question de l'héritage intellectuel, son agent lui propose la chose suivante, et je vous cite, « Aller à New York pour mourir à soi-même et ressusciter comme le Christ ». Et Camille, parce qu'il est un peu perdu, a cette réponse à la fois logique et musicale, et je vous cite encore, c'était n'importe quoi, alors j'ai dit, pourquoi pas. Et pourquoi Camille est-il un chouille perdu? C'est que voyez-vous, Camille, c'est le représentant officiel de la pensée macroniste. Ne vous étranglez pas, Abdelmalik, le studio est tout neuf. Je m'amuse. Ce que je veux dire par là, c'est que Camille, malgré lui, et aussi grâce à lui, donc en même temps grâce à lui, incarne une forme du « en même temps ». Je m'explique. B-boy, comme on dit aux States, mais né à Strasbourg. Noir, venant donc de beaucoup plus loin. Rappeur célèbre, et donc vivant à Paris. Rappeur, mais plus sensible aux mots du poète Édouard Glissant qu'à ceux de Maître Gims. Musicien, fasciné par Gérard Joannès, le grand amour de la grande Juliette, et par Miles Davis, le grand amour de la grande Juliette. Oui, quand on est une grande Juliette, on a les moyens d'avoir plusieurs grands amours.
Exactement.
Oh oui. Rappeur, donc combatif, mais en même temps musulman formé par un maître soufi qui lui enseigne la signification du mot islam, et je vous cite, « baisser les armes et dans un amour éperdu, s'en remettre à la vie ». Bref, très clairement, le tableau de Camille est composite. Et puis, au-dessus de cette tête farcie, rôde une question encore plus large. Comment la France peut-elle redevenir un authentique modèle universitaire? Vaste programme, un quart de copie n'y suffira pas. Alors oui, une virée en solitaire à New York, c'est peut-être n'importe quoi, mais peut-être que pas. Et arrivé à New York, que Camille ne connaît pas, c'est sa première visite dans ce pays inconnu mais très très familier. On connaît tous New York en fait, même sans y avoir été. Camille se demande où est-ce qu'on en est de la Sainte Trinité, de la Sainte Trilogie, enfin l'autre Sainte Trinité, Malcolm X, Barack Obama, Jay-Z. Alors Jay-Z et Plock Blueprint, hein, juste avant de n'être que le mec de Beyoncé. Quand je viens de dire Sainte Trinité, évidemment, Saint-Nicolas du Chardonnay vient de backflipper. Mais pour tout un tas de gens, il y a quelque chose dans l'association de ces trois noms, Malcolm X, Barack Obama, Jay-Z, qui relève de la chose sanctifiée. Et puis citer ces modèles, ces sources, en somme, rendre à César ce qui est à César, c'est aussi se protéger de son propre ego. Et on sait bien que l'ego chez les rappeurs, c'est la pierre angulaire. C'est à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur et en même temps le pire. Merci. Bisous, merci.
Juliette
merci,
Arnaud.
Bravo, merci beaucoup. Bravo, bravo.
Voilà merci. Pour cette lecture de Méchante blessure, paru chez Plon, le roman d'Abdelmalik, qui, entre autres actualités, adapte aussi Les Justes d'Albert Camus au théâtre du Châtelet en octobre. Abordons ce dernier sujet avant d'accueillir Frédéric Fromet et Flavia Coelho avec vous, Abdelmalik, un tour opérateur français, s'est spécialisé dans les voyages uniquement entre filles. Depuis 2016, donc avant MeToo. L'amitié entre filles est donc un business qui ne demande qu'à se développer, avec les VTC réservés aux femmes ou les séances de ciné réservées aux femmes aussi. Nous avons testé pour vous les voyage entre filles. Hein?
Manuela? Manuela? Excuse-moi, mais je dors. Est-ce que tu pourrais éviter le bruit du sèche-cheveux en pleine journée?
Mais bien sûr. Bah, ce que tu feras, tu me fileras ton planning, comme ça je calerai mes brushings en fonction de tes siestes.
Mais il a moi ses cheveux en plus.
Bah, il est dans la salle de bain, tu prêtes pas tes affaires?
C'est un extrait de Adopte un veuf, le film de François Desagna. C'est un article paru dans le dernier numéro du JDD. Et c'est le Canard Enchaîné qui s'en est moqué, qui a attiré notre attention là-dessus. Donc on sait déjà qu'il y a des VTC réservés aux femmes. Maintenant, il y a des vacances réservées aux femmes. Il y a même une île en Finlande réservée aux femmes. Ça a commencé un peu avant MeToo. Évidemment, ça a accéléré les choses. De quel œil vous voyez ça, vous, Abdelmalik? Vous vous dites, elles ont raison, elles ont besoin d'être protégées. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire une espèce d'apartheid des sexes.
Ouais, je trouve que c'est un peu triste en même temps. Parce que ça veut dire qu'on est allé tellement loin qu'on se dit, pour se protéger, il faut faire ça. Mmh. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culture et de l'éducation. C'est-à-dire comment on n'arrive pas, comment j'ai envie de dire, on arrive à tel point qu'on est obligé de se séparer les uns les autres pour se protéger. Et c'est réel.
C'est un radicalisme, finalement.
Ouais, et puis c'est triste, mais c'est aussi une acceptation. C'est aussi le fait de baisser les bras. Mais en même temps, voilà, on sécurise, il faut sécuriser. Voilà, on est dans un truc double pour le coup, mais je trouve ça triste.
Mais peut-être que c'est pas juste pour la sécurité, peut-être que c'est aussi pour être sûr que tout le monde va vraiment faire la vaisselle.
J'aurais pas osé la faire, celle-là.
Non, je pense beaucoup à mes vacances.
D'accord.
Je laisse ça là.
Abdelmalik, vous avez une part de féminité?
Non, totalement. Vraiment, ouais. Et c'est quelque chose qui est important que j'essaye de magnifier. Et que ce soit vraiment présent, c'est important ça. Mm-hmm. Et justement, en chacun magnifiant la masculinité en soi ou la féminité en soi, c'est aussi le fait des rapprochements, qu'on puisse être ensemble et qu'on se dise pas, voilà, on sait pas, parce qu'on parle différemment, parce qu'on a des cultures différentes. Il faut qu'on soit ensemble. C'est important. Et d'autant plus à l'heure de MeToo et de toutes ces problématiques-là qu'on bascule vers quelque chose de positif, quoi.
L'argumentaire de vente, parce que c'est un marché finalement.
C'est le marketing.
C'est un business. C'est de dire, on sera pas dans l'obligation d'être dans le rapport de séduction. Je vous cite ce qui est écrit dans l'article, hein. On peut peut-être éviter les vannes lourdes.
Faut donc être sûr de la sexualité de toutes les femmes dans l'autobus.
Parce que moi,
Le problème aussi, c'est que tout est business, en fait. Ouais. C'est-à-dire, finalement, c'est même pas... Nous, on pense en bien, disons. Mais eux, il y a tout un business derrière. C'est toujours...
C'est toute l'ambiguïté de ces choses-là. Fameuse récupération du capitalisme.
Mais moi, je suis géo sur les vacances.
Alex Vizorek.
Oui.
Dans cette émission avec Abdelmalik.
Mais c'est pas...
Il y a du chant.
Il y a du monde. C'est pas qu'on a un chanteur, c'est qu'on a un groupe aujourd'hui. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter? Et avec qui?
Eh bien, pour évoquer le Brésil et Bolsonaro, devinez quoi, j'ai invité une vraie chanteuse brésilienne.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement facho, ce mec-là. Complètement fada. Il n'aime pas les noirs, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Faut voir comment il traite les nanas. Il n'aime pas les pédés, ce gars-là. Et il est fier d'être comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il est pour le port d'armes, ce mec-là. Comme aux USA. Il a bu trop de caipirina. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Il en a rien à foutre du climat. Comme on dit au Brésil, il s'en bat. C'est pas une blague, il a dit de moins faire caca.
Plutôt que de mépriser les peuples indigènes, les gauchistes, les écolos et les beaux faire des graines. On se trompe, il ne faut pas cramer l'Amazonie. Mais par exemple, l'agrobusiness, la pétrochimie.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Ouh, complètement bajo, ce mec-là. Rien dans la cabessa. Un vrai militaire, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Sexiste et ordurier, c'est pourquoi il pourrait chroniquer ce gars-là. Chez Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Poupouloulouloulou. Complètement dingo, ce mec-là. Et il est chef d'État. Mais il est catholique, donc ça va.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a?
Avec Brigitte Macron, oulala.
Je suis désolée, hein.
Il pourrait pas écrire dans le gars-là.
Ni Voici, ni Closer, France Dimanche, Paris Match.
Voilà ce qui se produit quand on bat 3-0. Le Brésil, on se fait tacler par Bolsonaro, qui a une grande bouche comme le chef Raoni. Sauf que Bolsonaro s'en sert pour dire que des conneries.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Complètement cinglé, ce mec-là. Pas du tout Flavia. Et oui, l'extrême droite, c'est comme ça.
Le Pen, etc. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a quand il s'en ira? On le regrettera pas.
Non, non, non.
Bravo, merci infiniment. Merci. Flavia Coelho, Frédéric Fromé, accompagné par Victor Vague. Merci infiniment, Flavia merci Coelho. Flavia, donc votre nouvel album s'appelle DNA. Il est disponible.
Il sort le 18 octobre prochain.
Oh, très bien.
Bientôt disponible.
Ah ouais, tout à fait. Est-ce que vous voulez, vous avez tout dit dans la chanson ou vous voulez ajouter un mot?
Dans celle-ci ou dans la prochaine?
Non, non.
Dans celle-ci, c'est grâce à Frédéric que tout a été dit.
Ah, très bien. Bah, merci beaucoup. On rappelle bien sûr qu'on peut aussi vous revoir en vidéo sur franceinter.fr, sur Facebook, les réseaux. Partagez cette magnifique chanson qui fait du bien, qui appuie là où ça fait mal et qui nous a fait beaucoup rire. Merci, merci. Flavia. Flavia, c'est la famille. Flavia Coelho avec nous, Victor et Frédéric. Abdelmalik, un grand merci d'avoir passé cette heure avec
merci
nous. C'était un plaisir. Je rappelle votre actualité. Il y a bien sûr votre album Le Jeune Noir à l'épée qui est toujours disponible. Vous êtes venu nous parler de votre roman Méchante blessure paru chez Plon. Et puis, pour ceux qui peuvent venir à Paris au Théâtre du Châtelet en octobre, l'adaptation de Les Justes d'Albert Camus, adaptation par Abdelmalik. Merci beaucoup à toute notre formidable équipe. Merci à la préparation à Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, avec Ramzi Assadi, notre nouvelle stagiaire Céline Dubois, notre réalisateur qui a fait son baptême du feu cette semaine, il va faire l'année avec nous, enfin on espère.
En tout cas la semaine prochaine.
Bienvenue à toi François Audouin, merci à Gilles Gaillard à la technique, et puis merci les amis, Thomas mais VDB donc, qui a fait son grand retour, Juliette Arnaud pour les chroniques littéraires, Alex bien sûr, et Christine Gonzalez qui va reprendre son train vers la Suisse. Merci les amis, bon week-end. À lundi, nous passerons une heure en compagnie de Vincent Elbaz.
Vincent, tu vas pas faire ça, tu nous fais marcher, hein? Rassure-moi, c'est une plaisanterie.